superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Rejoins Loïc Tassé. Bonjour Loïc.
Bonjour Vincent.
On jette toujours un coup d'œil depuis plusieurs jours. Maintenant, après une petite pause, d'ailleurs, la commission sur les événements du 6 janvier, l'assaut du Capitole, reprenait aujourd'hui avec une comparution spéciale.
Tout à fait repris. C'est à 13h.
Okay.
Et alors, c'est très particulier parce que tout le monde est dans une salle sécurisée, alors qu'il n'y a pas de documents normalement qui sont top secret là-dedans. En fait, on ne sait pas ce qui va arriver. Tout ce qu'on sait, c'est que Mme Cassidy Hutchison, qui était une haute adjointe de John Meadow, qui lui-même était le directeur de cabinet de Donald Trump, va témoigner. On ne sait pas ce qu'elle va dire, mais on se dit que si le comité du 6 janvier a décidé de bousculer tout son horaire et d'avoir aujourd'hui même une commission spéciale d'écouter donc ce que cette dame a à dire, c'est parce qu'elle a vraiment quelque chose d'explosif à déclarer. Donc tout le monde est un peu sur le bout de sa chaise, puis on attend, et c'est à 13h. Donc
ouais, parce que quand ils ont annoncé Loïc qui suspendait, parce que là il y avait de nouvelles informations, on a tout retenu notre souffle, et là on va donc savoir tantôt c'est quoi. Mais est-ce que le fait d'avoir pris une pause fait que là nos attentes sont tellement grosses que souvent finalement avec Trump il passe toujours des trucs explosifs mais passe toujours à côté de vraiment le smoking gun là, qui va, non, écoute,
va
arrêter sa carrière.
Il a déjà commencé, Trump a déjà déclaré que de toute façon, n'est-ce pas, Madame Cassidy Hutchison cherchait simplement à être célèbre ou alors que c'était des fausses nouvelles, fake news, comme il dit tout le temps. Alors déjà, il a lui-même dégainé, si je puis dire, il essaie d'amoindrir ce qu'elle va dire, mais personne sait exactement ce dont elle va parler, mais on sait qu'elle avait accès à des cercles de discussion très 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 restreints, proche de Donald Trump, et donc on se dit peut-être qu'elle va témoigner de quelque chose, peut-être qu'elle va déposer un document, qu'elle a déposé des documents qui sont des documents qui sont extrêmement explosifs en effet. Mais comme tu dis, est-ce que ça va encore couler comme de l'eau sur le dos d'un canard pour Donald Trump?
Peut-être.
Je parie, je veux même pas parier tellement. Il y a des choses énormes à travers lesquelles Trump est passé sans trop de dommages.
Mais est-ce que je me trompe, Loïc, ou quand même la commission il me semble il y a quelques mois, les Américains suivront pas ça. Puis il y a quand même, ça génère quand même beaucoup d'intérêt. Les gens le suivent quand même. C'est beaucoup couvert. C'est pas tombé dans l'oubli, la commission, là.
Non, c'est pas tombé dans l'oubli, mais c'est pas couvert par les médias pro-Trump.
Non.
Donc, s'ils nous en parlent à peu près pas, ils le couvrent pas, il faut aller sur CNN, il faut aller voir le New York Times, le Washington Post. Eux le couvrent, bien entendu. Et t'as raison aussi, c'est l'été maintenant. Puis, tu sais, les gens sont moins enclins à suivre la politique, mais encore une fois, pourquoi est-ce que ça sort maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils ont bousculé leur horaire? Pourquoi est-ce qu'ils en ont fait quelque chose de spécial? C'est mieux d'être gros.
Parce que
si c'est pas gros, à ce moment-là, on va dire, mais pourquoi est-ce que vous avez dérangé tout le monde? C'était ridicule, ça.
Ouais.
Vous avez fait ça pour rien. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose vraiment d'important. Puis, on va probablement en parler demain. On va en parler demain, d'ailleurs. Que ce soit important ou pas, on va en parler. Soit on va dire, ça a fait patate et c'est pas grand-chose, soit qu'effectivement, il y a quelque chose vraiment d'important qui s'est produit.
On va le surveiller assurément dans les prochaines heures. On se déplace en Ukraine, Loïc, où il y a eu encore des bombardements. Je voyais d'ailleurs dans les dernières heures des images des bombardements d'hier où on voit des pauvres citoyens dans un parc qui courent partout sous les missiles. À chaque fois, ça nous ramène ce conflit là en plein visage.
Oui. Deux choses. D'abord, les Russes ont bombardé un centre d'achat hier ils ont dit « Ouais, mais vous savez, ce centre d'achat abritait de l'armement. » Mettons. Moi, je ne crois pas, mais mettons que ça ait abrité de l'armement. Veux-tu m'expliquer pourquoi ils n'ont pas bombardé ça la nuit? Pourquoi ils n'ont pas attendu quelques heures supplémentaires que le centre d'achat soit fermé et qu'il n'y ait plus de clients? Et ici, c'est absolument inexcusable ce que les Russes ont fait. On a une vingtaine de morts jusqu'à présent, il y a des douzaines de personnes disparues, donc probablement encore des douzaines de morts, une cinquantaine de blessés. Ils ont bombardé un centre commercial bourré de civils. Puis ils n'avaient pas à le bombarder en plein milieu de l'après-midi comme ça. Encore une fois, ils auraient pu attendre la soirée, attendre la nuit, quand le centre commercial était vide, si en effet, ce centre cachait de l'armement. Ça ne semble pas le cas, de toute façon. Mais tu vois, c'est une grosse bavure et ça a joué ça beaucoup sur le G7 qu'il y a eu hier. Et on a eu des réactions presque émotives de la part des dirigeants qui ont trouvé que ça allait trop loin.
Mais je voyais les dernières images, on voit justement des gens dans un parc. On voit un père qui tient sa petite fille qui court alors que les missiles frappent à côté. C'est le genre d'image qui nous ramène là, à dire, OK, je comprends là, qu'il y a des titres qui disent ça se fissure un peu la pluie, il y a de la fatigue. Mais c'est un rappel général à dire non, c'est beau, là, l'inflation, puis tout ça, on trouve ça difficile, mais c'est rien à côté de ce qu'ils vivent là-bas.
C'est rien à côté de ce qu'ils vivent là-bas, en effet. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'en ce moment, les Russes bombardent particulièrement le nord de l'Ukraine et qu'ils utilisent leur vieux stock de bombes et de missiles de l'ère soviétique. Donc, c'est des bombes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça, qui sont pas précises et qui font énormément de dommages collatéraux en plus. Alors, c'est vraiment ce qu'ils cherchent à faire ici, c'est à terroriser la population ukrainienne. Et ils vont réussir à faire exactement le contraire. C'est connu, en fait, que les bombardements, bien sûr, font mal à la population, mais enragent les gens plus qu'autre chose. Et c'est pas quelque chose qui, normalement, fait en sorte que les gens décident de se rendre. Au contraire, ça les enrage encore plus. Donc, c'est cruel, c'est brutal. Et il faudra un jour, je pense bien, que l'armée russe devra répondre de ce qu'elle a fait là. Mais pour le moment, ça nuit énormément à la Russie, parce que ce que ça fait, c'est que ça consolide en réalité les alliances pro-ukrainiennes.
Et d'ailleurs, dans ces alliances, il y a l'OTAN, donc on sait qu'il fait face à la Russie. Il y a une réunion à Madrid à ce sujet.
Super importante en ce moment, une réunion de l'OTAN. Et il y a un certain nombre de choses qui vont être discutées là. La BBC en fait une très très belle énumération. Elle dit d'abord, on va discuter de 5 choses. D'abord, on va éviter qu'il y ait une escalade. Faut pas que le conflit sorte de l'Ukraine, puis on a l'impression que la Russie fait tout pour que ça sorte de l'Ukraine. Deuxièmement, ce qu'on va faire aussi, c'est de garder l'unité entre les alliés. Faut pas qu'on se dispute, bon, on peut se disputer sur des petits trucs, mais faut faire très attention à ça parce que la Russie va exploiter nos moindres divergences, donc il faut rester très très unis. Ensuite, il y a toute la question de la sécurité des pays baltes qui est problématique. Il faut la renforcer parce qu'on veut pas qu'ils soient envahis, on veut même pas que la Russie soit tentée de commencer une guerre par là, et donc d'étendre le conflit par les pays baltes. Donc, on va envoyer effectivement davantage de soldats dans les pays baltes. Et je te signale à cet égard que la Lituanie, en ce moment, fait l'objet d'une attaque pirate informatique intense. Et ça vient de la Russie, évidemment, cette attaque informatique. Mais donc, je reprends mes points. Je disais, donc, pas d'escalade, il faut garder l'unité, il faut sécuriser les pays baltes. Quatrièmement, il y a toute la question de l'adhésion de la Finlande et la Suède. Et là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que la Turquie a commencé à bouger. Et a dit, nous, ça nous prend quelque chose de concret. On veut plus que des belles paroles. Donc, elle s'oppose pas vraiment. Elle veut négocier. C'est toute la question, en fait, des Kurdes. C'est toute la question des territoires syriens qui sont occupés par les Turcs qui est en jeu là-dedans. La Turquie est en train d'étendre son territoire et elle aimerait bien que l'OTAN n'intervienne pas trop là-dedans. C'est une question qui est très problématique en réalité, mais je pense que les Turcs n'auront pas de telles garanties, mais ils vont avoir des garanties en tout cas par rapport aux Kurdes. Certainement qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Donc ça, c'était le quatrième point. L'inclusion de la Finlande et la Suède, ça va se faire donc probablement dans les mois qui viennent. Et il y a une hausse des dépenses qui va être demandée, une hausse des dépenses militaires qui va probablement être de plus de 2%. On va hausser le plafond fort probablement et on va surtout demander un effort à plusieurs pays parce qu'il faut savoir que la Russie dépense environ 4,1% de son PIB dans les dépenses militaires. Les États-Unis sont à 3,5%, la Grande-Bretagne à 2,2%. et tous les autres pays de l'OTAN sont en bas. L'Allemagne, par exemple, est à 1,3% de son PIB en termes de dépenses militaires. Donc, malheureusement, il faut s'attendre à ce que beaucoup de pays augmentent leurs dépenses militaires. Je dis malheureusement, on est obligé de le faire parce que c'est de l'argent qu'on aimerait mieux mettre ailleurs. On aimerait ça mieux mettre ça dans le logement, dans les problèmes de santé. Il y a plein d'endroits où l'argent pourrait être mieux utilisé, sauf que malheureusement, on n'a pas le choix. On a une Russie qui devient de plus en plus dangereuse. Et puis, il y a derrière la question de la Chine. On en parle à peine de la Chine. Enfin, on va en parler à l'OTAN, on en parle à mon couvert. C'est pas une menace, officiellement, on appelle
ça
un défi.
Mais qui s'arme à grande vitesse aussi, là.
Oui, exactement. Puis, il faut faire attention à ce que fait la Chine. La Chine a des visées qui sont des visées mondiales depuis Mao. Ça fait longtemps que ça dure. Et maintenant, elle a de plus en plus les moyens d'appuyer ces visées mondiales. Donc, ça pose problème.
Un mot, Loïc, parce que je voyais une vague de chaleur en Europe dans les derniers jours, et là, c'est au Japon. Je voyais, oui. Je viens d'aller voir les prévisions météo encore à Tokyo. On annonce demain 38 degrés pour une ville peuplée par des dizaines de millions de Japonais. La situation de la vie doit être difficile ces jours-ci.
Très difficile, d'autant plus qu'à Tokyo, en juin, le thermomètre monte à 35 degrés Celsius au maximum. Or, il est bien plus élevé que ça. En plus, la mousson a pris fin presque 3 semaines plus tôt que d'habitude. Donc, il y a moins de pluie pour rafraîchir. Et donc, il y a un problème d'électricité très grave maintenant au Japon parce que les gens font fonctionner à fond leurs climatiseurs. On les comprend. Mais ça fait en sorte ça, que les réserves d'électricité du Japon sont à presque 3% seulement, alors que normalement, elles devraient être à 5%. Donc, dans les grands magasins, on arrête les escaliers mécaniques, on demande aux gens d'éteindre chez eux l'éclairage autant qu'ils le peuvent, on prend toutes sortes de mesures pour économiser l'électricité, parce qu'en plus, depuis l'accident de Fukushima, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'on a fermé presque toutes les centrales nucléaires, il n'y en a que 10 sur 54 qui fonctionnent, et les centrales nucléaires fournissaient le tiers de toute l'électricité du Japon. Donc, maintenant, c'est beaucoup du thermique, c'est beaucoup du charbon, du pétrole, même si on essaie de décarboniser, et on essaie aussi au Japon d'avoir une énergie de plus en plus verte, mais en ce moment, avec les changements de température, avec les changements climatiques, on est obligé de repartir des centrales au charbon. Ça coûte très cher. Le prix de l'électricité au Japon a augmenté de presque 20%.
Ouais, on peut s'imaginer que on parle des îlots de chaleur à Montréal, mais à Tokyo, dans certaines grandes villes au Japon, ça doit être assez difficile.
C'est très difficile, en effet.
Merci Loïc, à demain.
Salut Anne-Marie.
Salut.